t'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci d'être à l'écoute des radios Okapi qui vous propose ce nouveau numéro des paroles aux auditeurs. Votre magazine d'échange citoyen 100% interactif avec ce sujet en rapport avec le PEDEL 145T. Comme vous le savez, le programme de développement local dédié aux 145 territoires visant notamment à redynamiser les économies locales et transformer les conditions de vie des populations est déjà en phase opérationnelle dans certaines provinces. Alors, comment avancent les programmes chez vous, vous qui suivez de près cette actualité, et quelles sont les difficultés que prouvent ces projets? Aussi, il faut réfléchir sur les investissements privés. Sont-ils nécessaires pour accompagner ces projets? Et que peut-on attendre de l'apport de ces investissements? Voilà, autant de questions où nous tenterons de donner des réponses dans cette émission avec notre invité qui est déjà dans ce studio, qui nous a honoré d'ailleurs, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila, qui est avec nous. Bonjour Monsieur Jean-Baptiste.
Bonjour Gilles.
Voilà, vous êtes l'initiateur de la fondation JBNK et en même temps expert en finances publiques et au développement. Vous êtes sur le terrain à mener quelques actions de développement, notamment à Cabinda, et vous avez comparé les actions de PEDEL 145 et ce que vous faites et d'autres privés. Donc on va voir comment en parallèle arriver au résultat entre ce que fait le gouvernement et les privés en même temps. Voilà, mesdames et messieurs, vous pouvez également participer à cette émission en composant les 081 890 63 30 ou nous appeler directement au 081 890 49 69. Vous avez également la possibilité d'interagir sur www.radiocapi.net. Dieudonné Nyangasa, Blaise Shindani concourent à la production de cette émission coordonnée et présentée par J.R. Lungembo, Luabung, Anji. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, comme je l'ai dit tantôt, Monsieur Jean-Baptiste Nkongolo Kabila, qui est avec nous dans ces studios. Rebonjour, Monsieur Kongolo.
Bonjour.
Alors, vous avez suivi, vous êtes sur terrain parce que vous êtes l'homme du terrain. Qu'est-ce qui se passe concrètement avec le PEDEL 145 au niveau de Cabinda?
Bien, je peux vous dire que jusqu'en ce moment, PEDEL 145 n'a pas encore débuté pour le territoire de Cabinda. Parce que, comme vous le savez, c'est 145 territoires, donc, c'est-à-dire les territoires ruraux. C'est pas des villes. Il y a, à Cabinda, il y a la ville de Cabinda, mais il y a aussi le territoire de Cabinda, dont le chef-lieu c'est Kamende. Il y a le territoire de Lubao également, enfin, dans la Lomami, il y a le territoire de Lubao, le territoire de Lwilu, Lubao avec chef-lieu Lubao, le territoire de Lwilu avec chef-lieu Luputa, le territoire de Ngandajika, et la ville de Mweneditu, et le territoire de Kamiji. Mais pour Cabinda, précisément, au fait, rien n'a encore commencé comme programme dans le cadre du PEDEL 145.
Alors, quels sont, selon vous, en tant qu'expert en développement, expert en finances publiques, aujourd'hui, les difficultés que rencontrent ces projets?
La plus grande difficulté est que l'on n'avait pas saisi les priorités avant de définir ces projets. C'est-à-dire, quelles sont les priorités pour pouvoir développer l'intérieur du pays? Les priorités, ce sont des routes. C'est-à-dire qu'il faut des infrastructures routières. Il faut des infrastructures routières, mais aussi des infrastructures ferroviaires, parce qu'en fait, il n'y avait pas que des routes, il y a les chemins de fer, mais aussi les dragages des cours d'eau, des rivières et des lacs. Voilà. Il fallait d'abord commencer par aménager, sinon structurer et même créer des routes. Des infrastructures pouvant permettre l'acheminement des matériaux en vue de construire. Mais malheureusement, le programme a commencé par la construction des bâtiments. Nous pensons que les centres de santé, les écoles, les consorts pouvaient être des initiatives locales.
Donc vous pensez qu'avec les routes, on pouvait facilement aider les paysans à évacuer, et même surtout les privés, parce que vous, en tant que privé, en tant que fondation, vous menez au même moment des actions pour améliorer les conditions de vie des populations. Vous avez besoin d'importer des ciments, vous avez besoin de faire arriver des ciments pour des constructions, des bâtiments et tant d'autres. Le fait qu'il n'y ait pas de route, C'est déjà une difficulté.
Une difficulté énorme, pas simplement de construire des bâtiments, mais aussi d'améliorer l'agriculture. Par exemple, dans le milieu de l'agriculture, nous avons initié un projet
de transformation d'huile d'arachide
en huile. Et pour que nous puissions acquérir ces arachides, pour que nous puissions nous approcher de l'agriculteur, c'est un parcours de combattant. Et même pour approvisionner ces agriculteurs en semences améliorées, c'est aussi un problème, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure routière, parce qu'il n'y a pas de possibilité de pouvoir échanger les biens et services à partir de l'intérieur. Là où il n'y a pas de route, comment on peut parvenir à accéder, comment on peut faire circuler même les matériaux de construction, comment elles vont arriver à destination. Mmh. Lorsqu'on parle des bâtiments administratifs et des centres de santé, il ne faudrait pas voir simplement les chefs-lieux des territoires. Mmh. Mais il faut voir aussi qu'il y a des villages mmh. où il n'y a que des sentiers. Il n'y a même pas moyen de pouvoir y accéder. Voilà, on devrait commencer par les routes, par les infrastructures routières, les infrastructures ferroviaires, et comme vous le savez.
Mais peut-être le calcul qu'ils ont fait, les routes pouvaient prendre beaucoup d'argent, et pourtant le budget n'y avait que 1,6 milliard pour tous les 145 territoires.
Bon, tenez, 1,6 milliard, c'est beaucoup pour
les
aménager.
Routes, ça demande des bitumes, ça demande des compactages, des matériaux durables. Est-ce qu'on peut, faire des routes vraiment à moindre coût.
On pouvait faire des routes. Bon, des routes des dessertes agricoles, les routes intérieures n'étaient pas des routes fondées sur les bitumages. Mmh. Je suis allé en Corée du Sud. Il y a des durcisseurs. Il y a des routes que l'on peut construire.
Des durcisseurs.
Des durcisseurs de sol.
C'est-à-dire, point de besoin de construire.
Non. On peut utiliser ces durcisseurs-là, avoir des routes stabilisées qui peuvent bien faire le travail.
Avec une durabilité.
Mais aussi, parce que c'est, quand on parle de
durcisseurs.
Lorsqu'on donne, on accorde un crédit, enfin, à un investisseur, ou sinon, à tous ceux qui ont pu gagner le marché, mmh. lorsque leur cahier des charges implique qu'il faut avoir du ciment, des blocs ciment, mais comment faire arriver le ciment à destination? Nous avons par exemple amené une technologie nouvelle qui venait de la Chine pour des...
C'est là où que les gens tombent facilement dans les surfacturations.
Ah ben oui,
ils vont utiliser l'argent de l'État abusivement.
Oui, abusivement parce qu'ils croient que peut-être le prix... Imaginez-vous un sac
de ciment
pour 10 millions donnés, parce que c'est 10 millions par
10
territoire.
10 millions par territoire.
Dix millions donnés au territoire de Songololo.
10 millions, ça va construire quoi?
Imaginez-vous, quel État? 10 millions donnés au territoire de Songololo, avec un sac de ciment à $10. Vous comprenez? Et lorsqu'aujourd'hui on vous dit qu'un sac de ciment, c'est varié entre $40 et $50 en Bujima, donc à Kabinda et à Lusambo, vous voyez ce que ça signifie. Mm-hmm. Donc, c'est, à Lubao, ce sera encore pire. Donc, c'est-à-dire, celui qui construit avec les 10 millions peut terminer sa maison de 10 millions à Songololo, mais pas de la même façon que celui qui est en Gandajika ou à Kabinda. Mmh. Ça, c'est là le problème. Et donc, nous avions pu amener une technologie sur place, par exemple, la technologie des briques stabilisées. Alors, lorsqu'on étudie les cahiers des charges ici, on les étudie en fonction de ciment qui ne peut pas arriver à Kabinda, qui ne peut pas arriver à Lusambo, qui ne peut pas arriver dans tous les autres coins où il n'y a pas d'accessibilité, où il n'y a pas de route.
Donc déjà, le route constitue un obstacle majeur de ce projet.
Les routes, les voies ferrées, par exemple, les voies ferrées et les voies navigables, par exemple, le dragage de nos cours d'eau.
Donc, les 10 millions devaient servir d'abord à baliser le fleuve, à baliser les cours d'eau, à baliser. Et les routes travailler, les routes.
Et même d'acheter des têtes ou d'aménager le chemin de fer pour que les matériaux puissent arriver à destination. C'est après que l'on est aménager le minimum d'infrastructures que l'on peut faire arriver les matériaux de construction.
Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ces programmes PDL 145 est concurrencé par des activités menées par des privés sur le terrain?
Dire concurrencé, c'est un peu trop dire. C'est-à-dire, le programme
PDL... Parce que sur le plan local, il y a quand même des fils de terroir ou des filles de terroir qui, en fait, amorcent des actions de développement.
Et oui, mais bien sûr qu'ils le font, mais malheureusement qu'ils le font avec beaucoup de difficultés. Nous disons simplement qu'il fallait permettre l'accessibilité au site, de permettre aux initiatives locales d'accéder aux produits de première nécessité. Et pour qu'on accède aux produits de première nécessité, qu'est-ce qu'il faut ? Il faudrait aménager les infrastructures routières, les infrastructures ferroviaires, les dragages des cours d'eau.
Voilà. Alors, le temps de retrouver les auditeurs qui nous ont rejoints, PDL 145, comment ça avance chez vous dans votre territoire ? Mais aujourd'hui, on va commencer quand même avec Franck qui nous a appelé depuis Vienne, en Autriche. Et puis, on va retrouver Kalo Kalogi Dédonné à Kinshasa et Peter Babidi également dans la ville-province de Kinshasa. 081 890 63 30, on tourne les 081 890 49 69.
Parole aux auditeurs.
Voilà, merci une fois encore de votre fidélité à Radio Capi. Franck, vous êtes à Vienne. Bonjour Franck.
Bonjour notre ami Gère, bonjour à l'invité au studio, bonjour à tous les amis qui sont avec vous au studio et à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Alors, depuis 8000 kilomètres, vous aviez dit dans votre message sur notre page Facebook que vous avez quand même des informations sur le terrain, chez vous, dans les Bandundu, à Boulungu, à Bagata, notamment sur ces projets de 145 territoires. Pouvez-vous nous le partager ?
Oui, merci beaucoup. Je dois aussi commencer par remercier les amis qui m'ont fourni ces informations, qui sont à Bagata, il y a un médecin, à Massi, à Boulungu, à Gungu. Il y a des amis qui m'ont donné des informations de ce qui se passe à Feshi, à Kaemba, à Kenge. Moi-même, je suis de la ville de Bandundu, je suis prêtre de Kikwit, donc je suis suffisamment informé avant d'intervenir. Je commencerai aussi par témoigner qu'effectivement, il y a quelque chose qui s'est fait. Par rapport à tout ce que j'ai reçu comme information, il y a des écoles dans les chefs-lieux des territoires à Bagata, à Massi.
Des écoles qui sont construites, ce sont des écoles dans quel état, combien de salles, combien de bureaux administratifs. Bon, voilà, donc, bref, avez-vous une idée?
Oui, il y a des bâtiments de 3 salles de classe, il y a des bâtiments de 4 salles de classe, mais au moins j'ai retenu que par territoire, il y a 2 à 3 écoles dans les chefs-lieux de certains territoires. Dans certains secteurs, dans les chefs-lieux de secteurs, il y a aussi quelque chose qui s'est fait.
Oui, quand vous parlez des 3 salles de classe, pour organiser quelle filière ?
Bon, d'après les informations qu'on m'a données, c'est les primaires et les secondaires. Il y a des centres de santé qui se construisent, il y a des bureaux de l'administration, bureau du territoire qu'on construit. Il y a aussi des résidences des administrateurs du territoire qui sont en pleine construction. Vers Bonga, à Bualayulu, il y a une petite centrale solaire qu'on a déjà, qui est déjà opérationnelle. Bon, moi, personnellement, je ne parle pas des promesses, je parle au moins de ce qui est concret et effectif. Seulement, j'ai constaté que dans des grandes villes comme Bandundu et Kikwit, n'y a rien. Je ne sais pas si peut-être que les gens n'ont pas été attentifs. Disons que de ce côté-là, il y a quelque chose qui s'est fait. Nous saluons l'initiative. Nous reconnaissons que ça va apporter quelque chose. Et au moins cette fois-ci, on a promis et nous voyons les effets. Et quand nous intervenons, nous témoignons aussi. Et par rapport aux difficultés, il y a déjà la réalité des routes. L'invité venait de le dire.
Oui.
Parce que les amis qui m'ont apporté ces éléments
l'ont clairement dit. L'invité a insisté, ça aurait été une des priorités de ces projets.
Oui, je pourrais aussi dire parce que on peut aller construire des très beaux châteaux en pleine douce, mais s'il n'y a pas de route pour acheminer.
Oui.
S'il n'y a pas de route pour acheminer les matériaux, ça devient difficile. Moi-même,
on va tomber facilement dans la surfacturation. J'opère aussi dans les sociales.
J'opère aussi dans les sociales pour construire des écoles, des œuvres sociales. Parfois, je suis buté à la même difficulté des transports. Je crois que ce qui est fait, c'est déjà bien. Par rapport aux difficultés, moi, j'ajouterais, il y a aussi la mentalité. Parce que chez nous, généralement, on construit, mais on ne pense pas aux frais de construction, on ne pense pas à l'entretien. Donc, ça ne suffit pas seulement de construire, mais encore faudrait-il qu'on pense aussi aux frais d'entretien et aussi à la maintenance. Oui, des deux, nous savons, nous sommes Congolais, parfois, on est en train de vite construire, c'est aux approches
électorales.
Des campagnes électorales. Alors moi, je dois prévenir qu'on ne nous fasse pas de morts-nés, qu'on ne construise pas jusqu'au Nenton.
Le truc est
puis
arrêté quelque part. Après, on merci beaucoup, Franck. On
qu'on ne construise pas, pas jusqu'à Charpa, voilà. Après on s'arrête là.
Donc, voilà, je note qu'il y a cette difficulté d'infrastructure routière. Il y a aussi la question de la mentalité de la population. Merci beaucoup. Alors, Kalo Kaloji, vous êtes à Mbujimayi. Bonjour, Kalo.
Bonjour, monsieur Gilles. Bonjour aux auditeurs de la radio Capi.
Vous avez suivi notre invité ainsi que Franck de Vienne. Quelle est votre réaction?
Vous savez, quand nous avons entendu ce programme, nous autres, nous avons salué parce que ça fait autant d'années, nous, depuis qu'on a grandi, le développement s'est allé toujours dans des grandes villes, voire même Kinshasa. Mais cette fois-ci, le programme a été salué. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on veut aussi promouvoir aussi les entités telles déconcentrées comme les territoires. Mais monsieur Gier, vous devez aussi retenir une chose. Dans ce programme, moi, personnellement, je me suis toujours demandé quelle est l'étude qui a été faite d'abord pour connaître les priorités de chaque territoire.
Donc, l'étude de faisabilité.
Oui, ne pensez pas que, je suis ici au Gatsa Oriental, ne pensez pas que les problèmes qui se trouvent à Chilene,
c'est les mêmes
problèmes qui se trouvent à Kabekamouan. Mais je me rends compte que la construction, par exemple, des infrastructures en termes d'écoles, ça devient, je ne sais pas quoi. Non, non, on doit réellement déceler les problèmes de chaque territoire et poser des actes. Ici, chez nous, je vous dis, franchement, je n'ai jamais vu, personnellement, parce que j'étais à Kabekamouan, où j'ai fait deux mois plus tôt. Alors, je me suis toujours intéressé pour savoir les travaux commencent par où. Je vois certaines écoles en train d'être construites, mais je me pose la question. Il n'y a même pas des indicateurs pour voir
que ça c'est dans tout. Oui, mais parce que le problème aujourd'hui, il y a même un auditeur qui l'a relevé, nous risquons de confondre des actions privées et même des actions de l'État. Parce que l'ancien régime, c'était pareil. Vous arrivez, il y a un fils local qui mène une action, mais qu'on met dans les comptes des cinq chantiers ou de la révolution de la modernité.
Monsieur Gilles, vous avez raison. Quand vous prenez, par exemple, le secteur de Mpemba, là où j'ai fait deux mois, personnellement, je vous dis, c'est un secteur de Kabekamouan. Je n'ai jamais vu même un bâtiment, mais on me montre certaines choses, on dit que non, c'est une autorité, un honorable qui veut...
Un honorable, un ministre ou encore un mandataire.
Oui, mais je prends un cas, par exemple, quand vous... Je prends d'abord Kabekamouan, excusez-moi que je parle comme ça. Effectivement, pour quitter un Mbujimayi et aller faire Kabekamouan, mais c'est GM. En tout cas, je vous dis, le problème, ce n'est pas autre chose, c'est les routes.
Les routes.
Pour la première chose, c'est les routes. Il y a des choses qui se trouvent au point fait là.
Donc, vous rejoignez donc l'idée de notre invité tout à l'heure qui insistait sur la priorité. On devait commencer par les routes, avant de résoudre tous les autres problèmes.
Et non poser certains actes, tout ça. Moi, je me dis, les gens qui travaillent pour ces programmes, ils doivent avoir des douches entre eux. Maintenant, pour revenir au secteur privé, les économistes nous révèlent des choses. Quand il y a le secteur public qui essaie quand même de monter, il ne faut pas oublier le secteur privé. Public. Pourquoi? Le secteur privé, c'est nous qui vous parlons ici. C'est-à-dire, demandez-vous le climat des affaires, comment les gens souffrent aujourd'hui comme au Kasaï oriental. Imaginez-vous quelqu'un qui a des ambitions. Mais il s'est fait devant les régimes financiers, je parle ici en termes de DGDA, nous sommes à l'intérêt désenclavés. Mais ces gens-là, quand vous avez déjà payé la douane ailleurs, ici chez nous, nous souffrons. J'avais déjà même parlé au ministère de Finances. Ici, nous souffrons. C'est comme si nous n'avons pas quitté le régime passé. Nous
continuons. C'est comme si c'est la continuité du régime. Merci beaucoup, Kalo. Merci, Kalo. On ne sera pas allé plus loin. Monsieur Jean-Baptiste Nkongolo, c'est vrai, vous êtes l'initiateur de cette fondation JBNK. Voilà. Donc, mais je sais qu'il y a beaucoup d'appréhension dans les deals. Mais au moins, les auditeurs vous ont rejoint en disant que les priorités devaient être les routes.
Oui, les priorités.
Et vous l'avez dit d'ailleurs en privé, avant que nous commencions cette émission, depuis hier, vous avez dit que si on ne réunifie pas les territoires avec d'autres provinces pour faciliter les échanges, on est parti pour un échec déjà.
C'est si, évidemment. Parce que vous savez, je venais de donner ici un exemple. Je dis, notre ami qui vous parlait de l'Allemagne.
De l'Allemagne.
Parlait du Bandundu, etc. Mais pour qu'un sac de ciment quitte ici pour aller dans le Bandundu, il y a une belle route jusqu'à ce que vous atteindrez certains coins. Mais il faut faire arriver ce sac de ciment à Mbujimayi. D'abord pour que ça puisse aller à Kabeyamanga dont il parle. Et arriver à Kabinda, c'est encore un autre problème. Et donc, il fallait d'abord les routes. dans cet argent, si cet argent avait été financé pour aménager la route Kalambambouji-Kananga, si on avait acheté des têtes de train ou amélioré les infrastructures ferroviaires entre Lubumbashi, Mwene-Ditu et Dilolo, et on aurait dragué la rivière Kasai pour pouvoir amener, vous voyez ce que ça pouvait faire, ça pouvait amener les matériaux dont on a besoin pour construire ces bâtiments là et ça aussi, ça, pas simplement ça, ça donnerait des moyens aux initiatives privées de pouvoir faire éclore leur commerce et les échanges.
Parce que l'État ne peut pas tout faire.
Non, l'État ne peut pas.
Les privés viennent en appui et pour accompagner ces projets.
L'État doit.
C'est-à-dire, si l'État va construire 3 écoles, peut-être le privé peut construire aussi 2 écoles. Et ça peut faire.
Et même dans le partenariat public-privé, on peut pouvoir le faire. Et puis, l'État doit s'arrêter aux infrastructures de base. Les infrastructures de base, c'est-à-dire les infrastructures qui permettent un échange fluctueux dans le domaine du commerce interprovincial. Et alors, imaginez-vous, par exemple, pour la province de l'Omami, c'est une province qui est enclavée, ou enclavée pratiquement. Il y a le Maniema, le Sankuru, le Haut-Lomami, le Alaba et le Kassai oriental. Vous voyez un peu comment cette province-là est enclavée. Pour que l'on puisse...
Mais c'est alors que l'Omami, c'est une nouvelle province
Une nouvelle province.
Parce qu'il faut des problèmes des infrastructures, les problèmes des bâtiments qu'il faut construire et tout et tout.
Oui, mais les bâtiments, là, pour que ça soit construit, il faut qu'il y ait des matériaux qui arrivent jusque-là.
Et j'imagine que vous, les privés qui travaillaient dans ces secteurs...
Et nous
dans
avons beaucoup de difficultés.
Nous
avons initié, je vous ai dit, nous avons initié le développement du secteur agricole, notamment dans la culture de l'arachide, parce que nous sommes nés dans l'arachide. Nous avons voulu faire la presse, produire l'huile à travers l'arachide. Mais nous avons beaucoup de difficultés. Comment amener cet arachide au centre de transformation? Nous avons amené une presse d'huile. L'objectif, c'est de produire de l'huile d'arachide. Et cette huile, on peut la raffiner.
Le Mali est quand même entouré de beaucoup de, disons, d'autres provinces. Hein.
Oui. Il y a des difficultés.
Il y a le Katanga, il y a le Kassai oriental, le Kassai occidental.
Il y a plutôt la facilité même
de
réunir simplement le Kassai oriental à la Lomami. Vous savez qu'au début, c'était le Kassai oriental. Ne fût-ce que le Kassai oriental à la Lomami, ça pose des problèmes. Et imaginez-vous, le Kassai oriental au Maniema, au Lomami, c'est un calvaire. Alors, la première chose qu'il fallait faire, s'il fallait vraiment dans le cadre de PEDEL, parce que le projet route est là, il fallait commencer par les routes. Les développements devraient suivre avec le partenariat public-privé, et toutes les autres infrastructures pouvaient suivre, parce que les infrastructures routières, ferroviaires...
Il y a l'auditeur qui a dit qu'il y a eu faute d'études de faisabilité. C'est ce qui a fait qu'on s'est embarqué. C'est vrai, bon, il y a quand même des acteurs de développement qui sont impliqués dans ces projets, notamment le PNUD et les autres. Mais il y a toujours des doutes, parce que les montants d'abord de ce projet pour chaque territoire, pour vous, en tant qu'expert en finances publiques ou en développement, ça ne représente absolument rien à 10 millions.
Non, le problème, c'est celui-ci. On ne l'avait pas évalué. On l'avait évalué en total. Donc, il faut d'abord qu'on donne autant. Sur base de quoi? Quelles sont les études qui ont été faites? Lorsqu'on a pu étudier que l'on devait construire 3, 4, 5 bâtiments, bon, les matériaux de construction, ça viendrait d'où? Et de quelle façon on va les acquérir? Lorsqu'on obtient, dans le cadre du marché public, on obtient un cahier de charge. Ce cahier de charge contient quoi? Ça contient, par exemple, les sacs de ciment. Le sac de ciment, on prend le prix du sac de ciment à Kinshasa, on ne prend pas le prix.
Comparer, et puis vous savez
Quel est le montant de l'eau. C'est cela, le problème.
Parce que l'achat de ciment à Songololo, il est différent de l'Omami, par exemple.
Oui, parce que à Songololo, c'est 10 dollars.
Si nous prenons une étude simple,
oui, c'est ça. C'est 10 dollars, alors qu'à Cabinda, aujourd'hui, c'est 45-50.
4 fois plus cher.
Alors, vous comprenez. Alors, en ce moment-là, quelles sont les études qui ont été faites préalablement? Nous avons aussi, il faut.
Et
aussi
vous donnez l'Omami 10 millions, Songololo 10 millions.
10 millions,
Songololo en profite parce que le ciment, c'est à 10 dollars. Mais l'Omami aura des difficultés.
Ah ben oui, Cabinda n'en aura pas. C'est ça. C'est ça la difficulté. Et il fallait aussi aller sur place, voir quelles sont les opportunités, quels sont les mécanismes que l'on peut mettre en place, notamment, y a-t-il d'autres infrastructures, y a-t-il des matériaux que l'on peut mettre en valeur, parce qu'il fallait non seulement construire ces infrastructures-là, mais permettre aussi à la collectivité locale d'en profiter, aux initiatives locales, aux organismes locaux de pouvoir obtenir un peu plus de ressources. Nous avons des milieux où nous avons de l'argile. Pratiquement tous les Kassai ont de l'argile. Il fallait qu'on perfectionne cette argile-là pour pouvoir construire. Le service national a construit des grandes écoles là-bas, mais sur base des briques en argile. Mais on ne pouvait pas considérer un cahier de charge construit sur base de ciment qui ne s'en trouve pas, parce que tout l'espace Kassai n'a pas d'usine de fabrication de ciment. Le ciment qui est utilisé au Kassai provient soit du Katanga, soit du Kinshasa. Alors vous comprenez que
la distance,
le transport, les difficultés d'évacuation, ça pose énormément de problèmes. Ces difficultés, les opérateurs de ce coin-là les éprouvent aussi pour écouler les produits agricoles, les produits localement. Vous comprenez que c'est un calvaire de combat.
Alors, je suis en train d'ouvrir une parenthèse rapidement, parce que vous avez été quand même parmi les acteurs de cette lutte pour adhérer à la ZELCAF. Vous avez été vraiment en première ligne. À l'époque, vous étiez DGA de la DGDA, avant même de faire l'intérim de faire Guiza. Alors, aujourd'hui, ZELCAF, deux ans après, est-ce qu'aujourd'hui on sent que la RDC ne s'était pas trompée et d'aller sur cette voie, et en parallèle avec les zones économiques spéciales, ce projet de PDL 145, est-ce qu'il y a quand même une valeur ajoutée dans tout ça? Le PDL 145, c'est une valeur ajoutée par rapport à ces projets ZES et ZELCAF?
Non, écoutez, la ZELCAF, c'est la zone de libre-échange continentale africaine. Ça veut dire que elle était mise en place, donc les chefs d'État africains en 2018 avaient pris la résolution conformément à l'agenda 2063 de l'Union africaine, et ils ont pris la résolution de pouvoir former un espace censé économique, censé réduire des coûts commerciaux et aussi de pouvoir développer le commerce dans tous les pays africains. Actuellement, ce sont 55 pays africains ont déjà ratifié cela. Mais il y a des mécanismes qui peuvent permettre à pouvoir procéder réellement à la mise en place de ce qui est entré en vigueur à partir du 1er janvier 2021. Il y a des freins, des contraintes. D'un côté, il y a le problème de l'industrialisation de la plupart des pays. Mais pour industrialiser, vous voyez maintenant, là, l'infrastructure est importante.
Tout à fait.
Pour faire amener les usines, comme je l'ai dit là, amener une usine de Kinshasa, qui a déjà été portée de Kinshasa jusqu'à Cabinda, vous voyez ce que ça signifie? Cultiver, amener certaines technologies qui puissent permettre que l'agriculteur, parce que le pays est foncièrement agricole, l'agriculteur, parce que notre économie est extravertie aujourd'hui. Dans le secteur, même dans le secteur minier où nous sommes, nous ne parvenons pas à pouvoir transformer ces minerais en produits finis de façon à les exporter. Enfin, c'est cela le problème. Donc, pour que nous puissions être réels, pour que ça puisse réellement nous profiter, il faut que nous puissions développer l'industrie locale et aussi les infrastructures.
Mais avec quelle électricité, l'industrie locale? Avec quelle électricité?
Mais non, je parle de la circulation des biens et services. Parce que s'il y a circulation des biens et des services, on peut parvenir à pouvoir électrifier le contour. L'électrification viendra aussi de certains produits que nous allons importer pour pouvoir mettre des centrales, pour pouvoir mettre des centrales photovoltaïques ou les centrales hydroélectriques.
Voilà. Comme font aujourd'hui les Japonais, les Coréens. Et...
Oui, mais les Coréens, j'étais en Corée, je trouvais que la Corée
était l'énergie alternative.
Très éclairée. Très éclairée, alors qu'en Corée, il n'y a pas de rivière, ils se basent sur les centrales photovoltaïques et tout est à l'aise. Ils prennent ces panneaux solaires, ils prennent l'énergie solaire, ils les canalisent et les stocks.
Donc, en d'autres termes, si réellement ce projet était bien étudié, le PDL 445, ça allait être un projet vraiment salutaire.
C'est un très bon projet. Donc, je crois que le président de la République y avait très bien pensé et il fallait que ça soit bien raisonné, c'est-à-dire qu'on commence par des priorités. Et si on priorise certaines actions, alors en ce moment-là,
on allait,
ça sinon c'est une... Très bonne idée, très bonne idée.
Voilà, on va revenir encore à vous, Jean-Baptiste Kongolo Kabila, initiateur de la fondation JBNK. Donc je crois que je ne suis pas trompé, expert en finances publiques et développement. Dieudonné est à Kinshasa, Peter Mabudi est à Kinshasa également, et Jean-Pierre Ambandaka, 081-890-6330, encore les 081-890-4969, pour votre intervention en direct.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Parole aux auditeurs.
Merci mille fois encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs qui parlent de ce programme de développement local dédié aux 145 territoires qui est en phase opérationnelle dans certaines provinces. Vous venez d'écouter ces séries des auditeurs. Chez les uns, ça n'avance pas. Chez les autres, il y a déjà des signaux très clairs. Mais la grande difficulté, ce sont des routes pour arriver à faire arriver certains intrants pour impulser en avant ces projets. Dieudonné, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, JR, et bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Quelle est votre réaction?
Merci, JR, pour l'honneur que vous portez. Mais je commencerai d'abord par dire, lorsqu'on demandait à l'opposant Tshisekedi, quelle sera votre priorité lorsque vous serez président de ce pays, il répondait que tout d'abord, je commencerai par la réhabiliter les routes de désert à Kribol. Ça, c'est la seule priorité, monsieur Gilles. Mais je quitte fraîchement du territoire de Ngandajika. Il faut voir comment...
Donc, vous venez fraîchement de Ngandajika?
Je viens fraîchement de Ngandajika.
Qu'est-ce que vous avez constaté là-bas?
Il faut voir comment les routes sont impraticables. Monsieur Gilles, je me demande toujours comment ces projets restent toujours théoriques et restent toujours dans la bouche de différents médias. Nous entendons toujours aux médias le projet PEDEL 145 territoires, mais dans notre territoire de Ngandajika, on n'a pas même senti le coût de ce projet, M. JR. Alors, la population s'est posé déjà des questions pour se demander si le projet PEDEL ici marche de pair avec l'esprit politique. Il se demandait pourquoi, parce que Ngandajika controversé à être attaché à la province de Lomami. Il voulait être à la province de Kassai Oriental. Il pensait que, comme on ne vient même pas annoncer l'existence de ces 10 projets, il paraîtrait que non, ça fait partie de l'esprit politique et des histoires qu'on a, monsieur le journaliste. Alors, j'aimerais savoir...
Oui, parce que la grande question aujourd'hui, c'est vrai, il y a certains qui ont gagné les marchés, on va pas revenir sur ça, parce qu'ils ont présenté un cahier des charges, mais il y a un auditeur qui nous a laissé entendre les profils de ceux qui ont gagné les marchés. Dans la plupart des cas, ils ne sont même pas visibles sur le terrain, soit pas même avec une petite action qu'ils ont déjà menée. Mais par contre, il y a des privés qui sont visibles, avec des actions qui parlent, mais qui n'ont pas eu la chance de gagner ces marchés.
Monsieur Jouer, le projet PEDEL est déjà confondu à un projet privé de Abel Apollinaire Chibaka, le recteur de l'université officielle de Mbujimayi, qui a son projet là-bas privé. Il construit des écoles et des hôpitaux. On sent déjà qu'il a réussi.
Donc un professeur qui construit des écoles et les gens mettent ça dans les comptes des PEDEL 145.
Le PEDEL, monsieur le Jouer. Alors, nous connaissons bien que sans l'agriculture et l'élevage, le pays ici ne décollera jamais. Nous demandons à ce que le projet ici soit bien suivi, M. Juillet. Le projet soit bien suivi. Si
donc, suivi et évaluation.
Sera laissé pour le pays.
Voilà. Merci beaucoup, Dieudonné, d'avoir appelé de Kinshasa. Alors, Peter Mabudi, vous êtes également à Kinshasa. Vous avez suivi les témoignages de Dieudonné, qui revient fraîchement d'Ngadajika. Il nous dit la situation que lui, il a constaté que finalement, les PDL 145 n'avancent pas de ce côté-là. Et vous, Peter Mabudi, quel est votre témoignage?
Oui, merci M. Gilles pour m'avoir octroyé la parole. Moi également, je commence par mon territoire de Mueka, M. Gilles. Le territoire de Mueka est situé au centre du Kasaï, la province du Kasaï pour bien dire. Nous avons de l'autre côté le territoire du Lebo, le territoire de Ndemba, le territoire de Luebo ainsi que le territoire de Dekese. Mueka est au centre. Alors, si vous regardez la route qui quitte d'abord Lebo, Mueka, Ndemba pour atteindre Kananga.
Je suis sur l'avenue Kasaï.
Dans un état délabré.
Vous parlez de l'avenue Kasaï.
Tu capes Luebo pour arriver à Mueka, impraticable. Vous arrivez Mueka, Lodi, Dekese, impraticable. Et selon les informations que nous avions reçues, monsieur Jure, jusque-là, le programme de 145 territoires à Mueka, rien n'est encore fait. Même pas la pose de la première pierre. Rien n'est encore fait. Par rapport aux difficultés évoquées par l'invité ainsi que mes prédécesseurs.
Alors, il n'y a pas de route, il n'y a pas. Mais est-ce que pensez-vous qu'il aurait fallu pour le gouvernement d'appuyer beaucoup plus des privés qui sont opérationnels que de donner, passer les marchés à ceux qui ne le sont pas sur les terrains?
Non, mais le problème, ce n'est pas si le choix des privés ou des zones GD recrutées. Mais le problème, c'est qu'on a eu à identifier les besoins prioritaires. C'est ça la question principale. C'est pourquoi moi, dans certaines de vos émissions, j'ai toujours dit la RDC a besoin d'un budget sectoriel prioritaire. Quand j'ai parlé de ce modèle du budget, c'est-à-dire, on commence par quel est le secteur prioritaire pour notre pays. Le secteur prioritaire, c'est d'abord les routes. Après les routes, vient l'électricité. C'est l'électricité qui doit faire appel à l'eau. C'est l'électricité qui va faire appel... aux entreprises, c'est l'électricité qui doit faire appel également à l'agriculture.
Parce qu'on doit transformer notre produit.
Donc, quand vous regardez dans ces projets, monsieur, on n'a pas mis l'accent, ni moins l'agriculture, qui est le socle même de notre développement. On ne peut pas aller à ça. Quand vous parlez de la construction des bâtiments bâtis, la construction des écoles, la construction des centres de santé, des hôpitaux, est-ce que cela va résoudre le problème des Congolais? Non! Aujourd'hui, à Mueka, monsieur, nous vivons que de l'agriculture. Moi qui vous parle, mon père est agriculteur. Mais il y a des maïs qui pourrissent. Il y a des haricots qui pourrissent. Alors que la quantité des haricots que nous achetons ici...
Parce que comme l'a dit notre invité tout à l'heure, la transformation de l'arachide en huile. Alors on va évacuer ça où? Qui va consommer?
C'est là où on devrait identifier le problème et résoudre aussi le problème des Congolais.
Merci.
Donc, la circulation est l'élément capital pour résoudre tout projet pour développer
merci
le pays.
Merci beaucoup,
sinon,
Peter.
Tout ce qu'on peut faire, ça n'ira
ça
pas.
Sera, voilà. Merci beaucoup, Peter Mabudi. Jean-Pierre, vous êtes en Bandaka. Bonjour, Jean-Pierre. Voilà, on a des petits soucis avec Jean-Pierre. On prend plutôt professeur Sylvain Aguenaud. Vous êtes à Bounia. Professeur
Sylvain.
Sylvain, vous êtes avec nous?
L'émission. Bonjour à tous les auditeurs, auditrices.
Voilà, Jean-Pierre. Bon, voilà, on a retrouvé Jean-Pierre. Jean-Pierre, vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup. Je suis Jean-Pierre Angoua. Je vous appelle depuis la province de l'Équateur, plus précisément dans la ville de Bandaka.
Alors, chez vous, là-bas,
ici,
comment ça se passe?
Ici à l'Équateur, hier, il y a quelques signaux positifs qui prouvent qu'il y a une exécution de 10 projets. Mais la question de savoir qui est ici est de savoir qui est vraiment la personne qui coordonne et respecte les travaux. D'un côté, nous avons des partisans du ministre de l'aménagement du territoire qui se vantent
au
nom du patron. Oui. Alors pourquoi? C'est parce que la société qui exécute ces travaux porte le nom de DGEL, c'est-à-dire Deborah Kiluando. Et d'autre côté, nous avons les fidèles.
Au lieu que ce soit le projet piloté par le PNUD et les autres et qui avaient les leads sur ces projets, mais on se rend compte que ce sont des individus qui est un ministre et qui est un député qui prend le leadership sur le terrain, à l'Équateur notamment, comme vous venez de le signaler. Voilà, on a des petits... Vous nous suivez un peu en retard, vous nous captez en retard. au lieu de nous écouter par téléphone, vous nous écoutez par radio, donc ça, pardon, par votre téléphone, ça pose problème. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Alors, professeur Sylvain Haguenaud, vous êtes avec nous?
Oui, bonjour, monsieur Gér, je salue aussi l'invité, même, surtout mon ami Franck, hein, qui a appelé à partir des jeunes. Donc, pour le sujet d'aujourd'hui, j'avais d'abord deux ou trois choses à relever, puisque je suis en train de suivre ces projets depuis le début. Quand j'avais rencontré l'ancien ministre du Plan à l'époque, et quand j'ai échangé avec lui sur cette question des 145
territoires,
disons du projet des 145 territoires, à cette époque, j'étais très rassuré par le ministre. Et j'avais compris que c'est quelqu'un qui avait une idée. Mais maintenant, lorsque nous avons commencé à observer les faits sur terrain, et ici je vais vous surprendre, c'est qu'à cette époque, quand j'étais rentré de Kinshasa, moi-même j'ai tenu des réunions, des conférences, des assises avec les autorités locales, les chefs de quartier, et même d'autres acteurs de développement pour expliquer le sens de ces projets. Pour moi, j'estimais à l'époque
Que c'était bien pensé,
Oui.
Bien ficelé.
C'est ça. Je pense que le sénateur Alphonse Oké, qui peut-être qui me suit à travers cette émission, le sait, puisqu'on a aussi échangé avec lui autour de cette question, puisque pour nous, c'était une bonne occasion. Parce que vous savez, depuis les années 60, on n'a pas eu un programme du gouvernement qui puisse répondre à certains problèmes extrêmement locaux. Mais malheureusement, monsieur Gér, qu'est-ce que nous constatons? Je suis, par exemple, à territoire de Mangui et à Arou. Des passages, je vis des gens qui faisaient des travaux, mais dont eux-mêmes ne savaient pas les tenants et les aboutissants. Et c'est là où j'avais directement relevé une faille au niveau de l'implication de la communauté locale pour son appropriation. Excusez-moi, ça fait seulement 2 jours. Nous avons formé les bénéficiaires de ces projets-là. Ils étaient plus de 500 que nous avons formés pour utiliser d'une manière assez responsable les fonds qu'ils vont dégager de ces projets. Et j'ai été surpris lorsque leur pays a tardé, de gens se sont tournés contre leur propre développement. Donc vous comprenez par là que déjà, dès le début de ces programmes, on n'a pas permis que les PP s'auto-approprient ces projets. Et je peux vous dire, sans peur d'être contredit, puisque j'échange autour de cette question avec les responsables, les responsables des fonds sociaux, puisque ce sont eux qui l'exécutent sur le terrain. Mais il y a beaucoup de magouilles. L'invité a relevé ici, par exemple, la question des routes, des passerelles. Voyez-vous, aujourd'hui, si vous êtes sur le terrain, ce sont des travaux inachevés, si j'ai excusé les mots. Parce que je vous donne par exemple un exemple. Vous prenez un lieu A qui a un bout B, mais pour passer au lieu B, il n'y a pas de passerelle. On a travaillé quelque chose et on n'a pas achevé. Et je me pose la question, on va vous dire que le projet est arrivé à la fin, mais les travaux ne sont pas arrivés à la fin. Est-ce qu'il faut attendre step 3? Puisqu'il faut le dire aussi, avec ce projet de stabilisation de l'Est de la République, puisque c'est ça celui qui fera ça. Mais on a des travaux, on dirait bâclés, on ne comprend plus rien. Et vous avez soulevé, excusez-moi, je vais parler aujourd'hui d'une manière amassée, vous avez soulevé cette question des initiatives privées.
Initiatives privées.
Pourquoi les PDL 145 n'en tiennent pas compte? Mais c'est gère moi-même, ça fait plus de 2 ans, peut-être les gens ne le savent pas, en Ituri les gens le savent, je suis en train d'encadrer 25 000 mamans dans ce que j'appelle la FEM, la formation et l'accompagnement entrepreneurial des mamans. Je discute avec les gens de Kinshasa. Un jour, dans cette émission, on a parlé avec quelqu'un qui s'occupe de ces projets, vous vous souvenez?
Oui.
J'ai pris son numéro de téléphone, j'ai continué à échanger avec lui, et je lui ai proposé, si nous...
Oui, après le forum des ODD, hein, l'évaluation voilà, qu'on avait voilà. Fait là. Mais après, c'est le silence radio. Hein.
Après, c'est le silence radio. Alors, j'avais proposé à l'époque mes CGR, et j'estimais que c'était important. Pourquoi le programme 145 territoires n'a pas tenu compte déjà des interventions de certaines structures locales de
développement? Pour les appuyer. C'est un existant qui allait vraiment booster les projets.
Exactement. Et ça permettrait connaît-on pas dans ce genre de récupération?
Des récupérations, des surfacturations, des mauvais paiements, des détournements. Parce que des gens qui ont déjà l'argent et qui avaient déjà mis pour le développement, les 10 millions, ça ne représentait pas grand-chose, disons les choses clairement pour eux. Et donc, vous mettez les 10 millions et les 10 millions vont exactement servir au projet de développement. Au lieu qu'une partie va pour payer les cantonniers et déjà vous défalquez 3 millions et pour les payer pendant deux ans.
Monsieur Gère, je vais faire une révélation. Le fonds social fait appel à certains prestataires, ça veut dire des organismes privés, pour venir l'aider à réaliser certaines œuvres, et surtout ici en termes de formation de bénéficiaires, puisque je vous ai dit que j'ai participé comme formateur de ces bénéficiaires pendant 5 jours, et ces prestataires détournent l'argent qu'on a mis à leur disposition.
Mais parce qu'ils n'ont rien. Il fallait donner de l'argent à celui, on donne qu'à celui qui a et qui pouvait faire le travail.
Et c'est comme ça. C'est comme ça, je vous rassure. Pour les territoires de Mag, je vous donne le cas des territoires de Mag, vous pouvez vous rassurer. Les bénéficiaires sont sortis.
Ont disparu dans la nature.
Non, ils sont sortis dans la rue pour revendiquer leurs primes qui tardaient. On avait pris l'argent, on a plongé dans les affaires.
Dans les affaires et pour multiplier et puis revenir dans les projets après. Voilà. Alors, professeur, parce qu'on va quand même laisser la parole à Jean-Baptiste Kongolo Kabila. Réaction après avoir écouté ce que le professeur a dit.
Oui, mais je crois qu'il est revenu pratiquement sur ce que nous sommes dit. D'abord, il y a un problème de circulation des biens, des matériaux qui devraient permettre peut-être la construction de ces édifices, si c'est ce qu'ils avaient prévu. Mais il y a aussi le problème de la qualité des prestataires à qui on a confié ces travaux. On n'a pas étudié aussi avec quoi on devait procéder. Quelles sont les priorités à pouvoir engager? Nous pensons, et nous le disons comme les autres intervenants tout à l'heure, les priorités devraient être définies en termes des infrastructures routières, ferroviaires et maritimes, enfin même fluviales. Oui. Mais nous disons aussi qu'il fallait qu'on utilise les initiatives locales. Initiatives locales, ça signifiait qu'il fallait arriver dans un territoire.
Mais ils ont utilisé les initiatives locales. Mais le choix, c'est ça.
Non, le choix maintenant, les initiatives locales, les initiatives locales, d'ailleurs, très mal connues. Parce que d'abord, sur même terrain, pas installées sur terrain, ils n'ont aucune base.
C'est des mallettes, comme
vous appelez, c'est des mallettes. C'est ainsi que je dis, imaginez-vous quelqu'un qui vient avec un cahier de charges structuré en blocs de ciment qu'il faut aller construire à Kamina. Et alors que sur place, il y a des machines pour produire des briques stabilisées. Vous vous rendez un peu compte? Et il y en a qui ont des moyens sur place, qui peuvent utiliser ces moyens-là, qui ont peut-être le petit camion et construire, qui peuvent utiliser ces moyens pour transporter des matériaux. Je vais vous faire rire. Un jour, nous avons trouvé à Kamina quelqu'un qui avait gagné le marché à Kinshasa pour distribuer le matériel scolaire. Il manquait maintenant de moyens pour aller distribuer dans les
déplacements, la mobilité.
Ah, voilà. Il a fallu que nous intervenions. Vous vous rendez un peu compte? Ça, ce n'est pas normal.
Et à qui reviendra le mérite? C'est à lui qui a gagné le marché et le gouvernement. Mais entre-temps, c'est le privé qui a intervenu. C'est pourquoi j'ai dit l'apport du privé. Le gouvernement devait soutenir cet apport-là.
Alors, nous pensons que le gouvernement devrait confier, évidemment, des marchés ou des activités à des structures comme
existantes,
connues et qui sont stabilisées et dont on connaît et il faut mener des études approfondies. Est-ce qu'il a une assise locale?
Parce que quelqu'un qui est déjà habitué à construire des écoles.
Ah oui.
Mais parce que la priorité, vous voulez dans les PNL construire des écoles et des centres de santé. Ça serait plus facile que
celui qui n'a jamais construit des écoles et qui n'est pas là. Et vous allez voir aussi son crédit par rapport à son environnement, savoir est-ce qu'ils peuvent être en mesure de pouvoir réaliser telle ou telle chose.
Alors, c'est ce qui crée maintenant des guerres politiques, quand vous avez suivi les cas de l'Équateur, où des leaders politiques, maintenant, ils s'approprient de ce projet et ils mettent leur argent pour dire, voilà, c'est nous qui travaillons pour l'intérêt du chef de l'État.
Il ne faudrait pas que ça soit comme une sorte de
récupération
campagne.
Politique.
Non, ce n'est pas normal. Alors, en ce moment-là, ça dilue pratiquement l'idée du chef de l'État qui avait voulu que le développement partent de la base. De la base, c'est-à-dire que ça pouvait profiter même aux organismes locaux, comme le professeur venait de le dire.
J'ai l'impression que Jean-Baptiste Kongolo Kabila, vous vous sentez déçu en tant que privé sur terrain connu et qu'on vous a pas associé dans ces projets de PDL 145, ou bien finalement vous continuez en tant que privé à mener des actions et vous encouragez d'autres privés à les faire, mais ça pour autant tenir compte de PDL 145.
Non, en tout cas, moi j'ai oublié cela parce qu'en fait, ce n'est pas que je suis déçu de... Non, au fait, je ne suis pas... Moi, le problème, c'était de les accompagner pour qu'il y ait réalisation dans notre contrée. Parce que nous avions déjà commencé à le faire. Mais est-ce qu'il n'y avait pas moyen de pouvoir vous accompagner
pour que ça puisse... bien avant.
Oui, voilà, c'est ça. Et est-ce que nous ne pouvons pas vous accompagner pour que les objectifs puissent être atteints? C'est tout ce que nous voulions faire. Et sinon, nous les avons laissés continuer... Nous continuons avec ce que nous pouvons faire. Ce que nous demandons à l'État, c'est simplement de nous améliorer les conditions d'acheminement de matériaux, les conditions de circulation, pour que, notamment dans l'agriculture que nous voulons développer, que nous puissions avoir des infrastructures qui puissent permettre que les moyens de locomotion dont on peut disposer puissent arriver à destination et amener les agriculteurs, pour leur amener les semences, mais aussi récolter ce qu'ils ont pour les amener vers l'industrialisation.
Est-ce que vous avez des inquiétudes quant à l'avenir de ce projet?
Bien, jusque-là, les inquiétudes, il y en a, bien sûr. Nous pensons aussi qu'en le disant, qu'en le dénonçant, parce que tout le monde...
Fera-t-il long feu ou ça va s'arrêter quelque part, brutalement, comme d'autres projets?
Je crains que cela ne puisse s'arrêter quelque part. Comme vous le dites, au territoire de Cabinda, par exemple, on n'a pas encore commencé la première phase.
Parce que le chronogramme n'est même pas connu.
Oui.
Comme l'a posé la question tout à l'heure un auditeur. Est-ce qu'il y a, il y a vraiment un chronogramme? On sait qu'on partira de telle année à telle année pour les résultats, et afin de continuer peut-être dans l'autre
direction. Oui, parce que dans certaines contrées, comme à Cabinda, la première phase n'a pas encore commencé. La première phase n'a pas encore commencé. Parce qu'il y avait plusieurs phases. Ils ont commencé par les bâtiments sociaux. Des bâtiments, et des infrastructures comme des bâtiments,
les
des
écoles, des écoles. C'est concerné par les bâtiments, non?
Oui, parce que les bâtiments, cabine rurale, donc c'est-à-dire cabine, on n'a pas encore commencé. Alors il faudrait passer de la construction des bâtiments aux infrastructures routières. On ne sait pas à quel moment ça va commencer.
Est-ce que ça devait vraiment commencer à géométrie variable, ou bien les programmes devaient être lancés sur toute l'étendue de la République au même moment? L'idéal, ça aurait été que ça commence au même moment.
Non, moi je crois que qui trop embrasse, mal-être. Et en anglais, parfois, quand on dit aussi qui trop embrasse, mal-être, ça veut dire qu'il fallait partir, par exemple, dans une province. On commence territoire par territoire. Ou peut-être deux territoires d'abord que l'on prend comme modèle, on les relie et ensuite on construit des.
Et après, on passe à une autre province,
je pense.
Ainsi de suite,
le modèle. Le modèle que l'on a institué dans une province peut être amené dans une autre. Et en ce moment-là, on peut parvenir à réussir peut-être le combat. En ce moment que l'on a donné ces travaux déjà confiés à des prestataires, ce que nous souhaitons, c'est qu'ils puissent arriver à terminer ces travaux et à passer plus vite à la deuxième phase, parce que c'est la deuxième phase pour nous qui serait plutôt importante, parce qu'il paraît que c'est celle-là qui concerne les routes.
Donc, allô, mamie, ils ont la chance de vous avoir, d'avoir aussi d'autres prestataires privés qui sont là, qui mènent des actions pour le développement du secteur, dans ce qui vous concerne, notamment avec la fondation Jibène. C'est déjà des choses qui sont très avancées, et c'était un réel plaisir pour nous, monsieur Jean-Baptiste Kongolo Kabila, expert en finances publiques et au développement, acteur de développement sur le terrain, notamment dans votre partie, l'OMAMI, où vous évoluez. Merci de nous avoir honoré de votre présence pour répondre aux préoccupations des uns et des autres. En tout cas, à très bientôt.
Merci beaucoup, Gérlo.
Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette émission avec une attention soutenue. Merci à toute l'équipe qui a concouru à sa production. On se retrouve avec vous demain dans un autre numéro des Paroles aux auditeurs. Et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.